Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bien, chers amis auditeurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes d'amitié et de fraternité en ce lundi 9 mai 2022. Je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. La Syrie est désormais une puissance, a souligné le leader de la révolution islamique lors d'une rencontre avec le président syrien dimanche 8 mai à Téhéran. Un nouvel horizon s'est ouvert dans les relations stratégiques syro-iraniennes, affirme le ministre iranien des Affaires étrangères, et le Hezbollah a fermement condamné l'attaque terroriste perpétrée contre une unité de l'armée égyptienne dans le Sinaï. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le président syrien Bachar al-Assad a effectué une visite de travail à Téhéran le dimanche 8 mai, au cours de laquelle il a rencontré le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Ali Khamenei, et son homologue iranien, M. Ebrahim Raisi. Les entretiens ont porté sur les relations historiques entre les deux pays, qui reposent sur une longue tradition de coopération bilatérale et de compréhension mutuelle des questions et des problèmes de la région, ainsi que sur les défis auxquels font face les deux pays. Les deux parties ont également abordé des questions d'intérêt commun et les derniers développements sur les scènes régionales et internationales. Le leader de la révolution islamique a salué la résistance du peuple et du gouvernement syrien aux pressions étrangères au cours des dernières années. Il a décrit M. Assad comme un dirigeant déterminé et lui a souhaité tout le succès possible dans la reconstruction de son pays ravagé par la guerre, ajoutant que l'Iran et la Syrie devaient saisir toutes les opportunités de renforcer leurs relations bilatérales. Aujourd'hui, la Syrie n'est plus la même qu'elle était avant la guerre. Malgré les ravages que ce pays a subis, la Syrie jouit d'un plus haut degré de respect et de crédit et tous les pays la considèrent comme une puissance, a souligné le leader de la révolution islamique. Pour sa part, le président syrien Bachar al-Assad a affirmé que le cours des événements avait fait preuve, une fois de plus, de la justesse des visions et de l'approche que la Syrie et l'Iran avaient suivie pendant des années, notamment dans la lutte contre le terrorisme, ce qui confirme l'importance de la poursuite de la coopération afin de ne pas permettre aux États-Unis de mettre au point le système terroriste international qu'ils avaient utilisé pour nuire aux pays du monde, en particulier aux pays de la région, tout au long des dernières décennies. De son côté, le président iranien Ebrahim Raisi a fait part de la volonté sérieuse de l'Iran d'élargir les relations avec la Syrie, en particulier les relations économiques et commerciales, rappelant qu'il continuera à fournir toutes les formes de soutien à la Syrie et à son peuple, en particulier à la lumière des conditions économiques difficiles que connaît le monde. L'Iran restera aux côtés de la Syrie pour l'aider à surmonter les difficultés, étant donné que toute souffrance pour la Syrie est une souffrance pour l'Iran, a-t-il fait savoir. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé que la visite du président syrien à Téhéran et les rencontres de haut niveau avec le leader de la révolution islamique et le président iranien avaient ouvert un nouvel horizon dans les relations stratégiques entre les deux pays. Monsieur Amir Abdollahian a insisté dans un tweet sur la détermination à promouvoir les relations entre les deux pays et à les élever à un niveau qui convient à leur peuple, soulignant le rôle de la coopération entre l'Iran et la Syrie dans la défaite du complot terroriste imposé à la Syrie. Les forces irakiennes ont tué dimanche 8 mai 3 terroristes de Daesh et arrêté 3 des dirigeants locaux de l'organisation dans les provinces de Ninive et de Bagdad, a annoncé l'armée irakienne. L'armée a lancé une opération dans une zone montagneuse de la province septentrionale de Ninive qui lui a permis d'éliminer 3 daeshistes, a déclaré dans un communiqué Yahya Rasoul, porte-parole du commandant en chef des forces armées irakiennes. Les forces irakiennes ont également arrêté 3 dirigeants locaux de Daesh dans la province de Bagdad grâce à des renseignements fournis par des terroristes précédemment capturés, a indiqué le service de presse du commandement des opérations conjointes JOC dans un autre communiqué. Au cours d'une enquête préliminaire, les détenus ont avoué avoir mené des opérations terroristes dans la province d'Al-Anbar, dirigée par des groupes terroristes, et participé à plusieurs opérations terroristes contre les forces de sécurité et les citoyens, selon le communiqué du JOC. Au cours des derniers mois, les forces de sécurité irakiennes ont lancé plusieurs opérations contre les terroristes afin de lutter contre l'intensification de leurs activités. Le Hezbollah a fermement condamné ce dimanche 8 mai l'attaque terroriste perpétrée la veille contre une unité de l'armée égyptienne dans le Sinaï. Le Hezbollah a exprimé sa pleine solidarité avec le peuple égyptien frère, affirmant que ce que les groupes terroristes ont commis vise à saper la stabilité et la sécurité de l'Égypte, à détourner l'attention du terrorisme sioniste perpétré en Palestine et à embourber la région dans les conflits internes. Le Hezbollah a appelé à la nécessité d'affronter et d'isoler l'idéologie destructrice du takfirisme et de prendre toutes les mesures de précaution le long du monde islamique afin de la repousser pratiquement et politiquement. Rappelons que l'armée égyptienne a annoncé samedi la mort de 11 militaires qui déjouaient une attaque terroriste à proximité du canal de Suez dans le Sinaï, péninsule du nord-est du pays. Les affrontements ont eu lieu alors que les troupes égyptiennes ont déjoué une attaque d'un groupe de terroristes contre une station de pompage d'eau dans le Sinaï occidental, a indiqué le porte-parole de l'armée égyptienne, Ghalib Abdelhafez, dans le communiqué. Parmi les 11 soldats qui ont péri dans les affrontements figurent 10 soldats et un officier, tandis que les forces armées poursuivent actuellement des terroristes assiégés dans une zone isolée, selon le porte-parole. Bien que le lieu exact n'a pas été précis dans le communiqué, le site d'information d'État Al-Ahram a rapporté que les affrontements ont eu lieu au poste contrôle de la station de pompage des eaux du canal de l'Est. Au cours de la dernière décennie, l'Égypte a combattu le terrorisme dans la partie nord de la péninsule du Sinaï et le pays a réussi à limiter considérablement les activités terroristes dans la péninsule. Les terroristes du Sinaï sont pour la plupart fidèles au groupe terroriste Daesh. Le ministère russe de la Défense a annoncé le soir du 7 mai la fin d'une opération humanitaire d'évacuation de civils à Azovstal qui a pu être menée ces 3 derniers jours grâce aux mesures sans précédent prises par les dirigeants de la Fédération de Russie avec la participation active de représentants de l'ONU et du Comité international de la Croix-Rouge. Au cours de l'opération, à partir du 5 mai, 51 personnes, 18 hommes, 22 femmes, 11 enfants, ont été sauvées, dont une personne le 7 mai 2022, a précisé la défense russe dans un communiqué. Plus tôt, la vice-première ministre ukrainienne avait affirmé sur les réseaux sociaux. L'or du président ukrainien a été exécuté. Toutes les femmes, tous les enfants et toutes les personnes âgées ont été évacuées d'Azovstal. Cette partie de la mission humanitaire de Mariupol est accomplie. Le site industriel d'Azovstal est le dernier bastion dans Mariupol des militaires ukrainiens et des combattants du bataillon néo-nazi Azov, l'armée russe contrôlant le reste de la ville. La défense russe avait annoncé unilatéralement le 4 mai l'instauration d'un cessez-le-feu ainsi que l'ouverture d'un couloir humanitaire pour l'évacuation des civils d'Azovstal les 5, 6 et 7 mai. Les évacuations se déroulent sous l'égide de l'ONU et du Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Leader Assad, la Syrie est désormais une puissance. Le président syrien Bachar al-Assad a effectué une visite de travail ce dimanche 8 mai à Téhéran, au cours de laquelle il a rencontré le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Ali Khamenei, et son homologue iranien, Ebrahim Raisi. Les entretiens ont porté sur les relations historiques entre l'Iran et la Syrie, qui reposent sur une longue tradition de coopération bilatérale et de compréhension mutuelle des questions et des problèmes de la région, ainsi que sur les défis auxquels font face les deux pays. Les deux parties ont également abordé des questions d'intérêt commun et les derniers développements sur les scènes régionales et internationales. Le leader de la révolution islamique a déclaré « Aujourd'hui, la Syrie n'est plus la même qu'elle était avant la guerre. Malgré les ravages que ce pays a subis, la Syrie jouit d'un plus haut degré de respect et de crédit et tous les pays la considèrent comme une puissance. » L'Ayatollah Khamenei a souligné que le président syrien et sa nation sont désormais honorés par toutes les nations de la région. Certains dirigeants de pays voisins entretiennent des relations avec les dirigeants du régime sioniste et boivent du café ensemble. Cependant, les nations de ces mêmes pays ont participé à la marche de la Journée mondiale d'Al-Rots et ont scandé des slogans anti-sionistes. C'est la réalité actuelle de la région. Le président syrien, pour sa part, a remercié la nation et le gouvernement iranien pour leur soutien à la Syrie. La fermeté de l'Iran et ses positions inébranlables au cours des 4 dernières décennies sur les questions régionales, en particulier sur la question de la Palestine, ont prouvé au monde entier que la voie de l'Iran était une voie correcte et fondée sur des principes. Le président syrien a déclaré que les relations stratégiques entre l'Iran et la Syrie étaient un facteur majeur qui empêche le régime sioniste de dominer toute la région. Le président syrien a affirmé que le cours des événements avait fait preuve, une fois de plus, de la justesse des visions et de l'approche que la Syrie et l'Iran avaient suivie pendant des années, notamment dans la lutte contre le terrorisme, ce qui confirme l'importance de la poursuite de la coopération afin de ne pas permettre aux États-Unis de mettre au point le système terroriste international qu'ils avaient utilisé pour nuire aux pays du monde, en particulier aux pays de la région, tout au long des dernières décennies, faisant allusion à ce que les États-Unis sont aujourd'hui plus faibles que jamais. Il a souligné que la cause palestinienne impose aujourd'hui de plus en plus sa présence et son importance dans la conscience du monde arabe et islamique grâce au sacrifice des héros de la résistance.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Le débat dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur les derniers développements relatifs à l'Ukraine, surtout en fait de cette passe d'armes entre la Russie et le régime israélien. La Russie qui dit désormais ouvertement que des mercenaires israéliens sont présents sur le territoire ukrainien pour combattre l'armée des Russes. je vais dire quelque chose que les politiciens israéliens ne veulent sans doute pas entendre, mais peut-être que cela les intéressera. En Ukraine, des mercenaires israéliens sont aux côtés des extrémistes d'Azov, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Madame Maria Zakharova. Ces propos interviennent suite, si vous voulez, à cette récente déclaration du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a suscité la colère des autorités israéliennes. Sergueï Lavrov, qui l'a en fait affirmé, c'était dimanche, qu'Adolf Hitler avait du sang juif. Et dans le même temps, la Russie a annoncé que son armée avait dissimulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave russe de Kaliningrad, située entre la Pologne et la Lituanie, deux pays membres de l'Union européenne. Et s'agissant de la France, il y avait cette déclaration du président français Emmanuel Macron, c'était hier, de jeudi 5 mai, comme quoi en fait plusieurs centaines de millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaires vont être accordés pour l'Ukraine. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas un juriste français spécialiste des questions internationales qui va en fait nous rejoindre dans les minutes à venir. Mais pour commencer notre émission, on va partir tout de suite à Moscou pour rejoindre un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Fabrice Beurre. M. Beurre, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, toujours un plaisir d'être sur PSP.
Monsieur Beurre, je viens de lancer le sujet, les derniers développements relatifs à l'Ukraine, très particulièrement cette passe d'armes entre la Russie et le régime israélien. Quelle évaluation portez-vous sur ce qui se passe actuellement entre Tel Aviv et Moscou, Monsieur Beurre?
Tel Aviv a tiré un peu trop sur la corde. Cela a commencé depuis, on va dire, si on prend simplement les derniers événements sur les dernières années, avec l'affaire de l'avion russe détruit du fait de l'action de la nation israélienne qui s'était cachée derrière, donc ça veut dire de la civile. Et puis dernièrement, on peut en voir un élément positif, puisque le Premier ministre israélien avait fait en fait la navette, la liaison entre Moscou et Kiev, et semble-t-il avait apporté une possibilité de dialogue. Sauf que ça n'a pas dû plaire évidemment à une partie de la classe politique israélienne, en particulier du protecteur américain. Et aujourd'hui, on voit bien le retour et les déclarations officielles israéliennes où il y a aide entre guillemets humanitaire, aide militaire et condamnation de l'activité russe en Ukraine. Alors même que pour les Russes surtout, c'est une double trahison, déjà certainement la parole donnée d'un point de vue diplomatique lors de ces derniers échanges, mais surtout vis-à-vis des personnes et des groupes qu'ils combattent en Ukraine, à savoir ces bataillons nazis, Azov, Haïdar et autres compagnies. Je précise que malheureusement, ça a été diffusé dans l'armée ukrainienne, puisque beaucoup des officiers de l'armée ukrainienne viennent de ces bataillons. Ce qui explique beaucoup d'ailleurs des activités criminelles que mène aujourd'hui même l'armée ukrainienne. Et donc, pour revenir sur votre question, plus simplement, que peut-on dire ? Peut-on dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la Russie a décidé de mettre les pieds sur la table. C'est-à-dire que ça suffit, cette hypocrisie, et de dire ce qu'il faut dire. Lorsque vous avez des mercenaires israéliens qui sont des anciens militaires, ils ne partent pas par hasard, ils ne partent pas sans l'autorisation de leur gouvernement, encore moins de l'armée. Ils partent effectivement en mission. Et en plus, à côté des bataillons donc d'Azov et autres, qui sont on va dire la pointe de la russophobie et des gens qui mènent des crimes contre contre les populations russophones dans l'Ukraine, en Ukraine, c'est une provocation, on va dire, suprême. C'est la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Donc maintenant, on dit la vérité. Alors, ça gêne, ça les gêne, les histoires des affiliations d'Hitler, mais on va parler des affiliations d'Ashman, qui avait une grand-mère aussi juive. Et alors, c'est une réalité. Est-ce que ça les gêne qu'on dise que le Bétard a travaillé avec les nazis jusqu'en 1944-45? Ils vont dire, beaucoup vont dire, et beaucoup de sionistes d'ailleurs vont en parler, en disant que c'est une horreur, ce n'est pas vrai. Pourtant, ce sont des éléments qu'on peut trouver dans l'Institut Jabotinsky à Tel Aviv. Faudrait-il encore qu'ils étudient l'histoire même du sionisme, leur propre histoire? Ce serait déjà beaucoup. Rappelons que jusque dans l'Allemagne nazie, il y avait l'interdiction de tout mouvement de jeunesse qui n'était pas la jeunesse hitlérienne, sauf le Bétard, qui avait quoi comme chemise? Une chemise brune, et comme drapeau, celui d'Israël aujourd'hui. Donc on peut aller très loin s'ils veulent, et la Russie peut aller très loin si on le veut, parce que les archives de l'Allemagne nazie, à Berlin, on va dire qu'ils ont été récupérés par Moscou. Donc s'ils veulent qu'on aille plus loin, on va aller plus loin. Il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas à leur avantage. Donc il serait temps, et c'est en cela que vous avez ces mises en demeure publiques de la diplomatie russe, de dire si vous voulez aller plus loin, il n'y a aucun souci, on peut y aller maintenant, vous vous calmez. Vous sortez du jeu, sinon, comme si vous ne sortez pas du jeu et que vous intervenez dedans, vous donc faites partie des belligérants. Si vous êtes partie des belligérants, à ce moment-là, on agit comme tout belligérant, on rend les coups. Et là, les coups, ça peut être plus important, puisque ce ne sera pas des coups militaires qui seront rendus, ce seront des coups au mythe de la fondation de l'État d'Israël et des premiers sionistes. Et ça peut faire très mal. Et je pense qu'à Tel Aviv, ils ont intérêt, comme à New York ou comme à Paris, au quartier Saint-Germain-des-Prés, et ils ont intérêt à réfléchir beaucoup à cette question-là, parce que je pense que ça peut faire du mal. Si tant est qu'aujourd'hui, dans le bloc occidental, ils mettent de la censure, je crois que dans le reste du monde, les gens sont prêts à entendre la vérité.
On va partir tout de suite à de Damas pour rejoindre Maître Arnon Develé. Maître Develé, vous avez entendu M. Beber. Et vous, que pensez-vous de cette, pour employer l'expression de M. Beber, de cette mise en demeure publique et ouverte, si vous voulez, de la Russie au régime israélien? Et si j'ai bien suivi, en fait, M. Beber, à Moscou, on a cette impression que le régime israélien a franchi la ligne rouge.
Le régime israélien est coutumier de franchir les lignes rouges. Il semble penser qu'il y a un standard de conduite pour eux et un standard de conduite pour les autres. Sauf que dans le contexte de cette façon de faire, si je puis dire, vis-à-vis des Russes, pour le coup, je crois qu'ils se sont trompés d'interlocuteur. Autant il a toujours été possible d'exercer une forme de chantage moral sur les gouvernements occidentaux concernant certaines questions, eu égard au fait que ces sujets étaient figés et faisaient partie d'un certain narratif qui n'avait pas vocation à être remis en cause ou même discuté de manière critique. Autant on s'aperçoit que lorsqu'il s'agit d'imposer ce standard aux Russes, le jeu s'arrête. Les Russes n'ont absolument aucune raison, aucune leçon à recevoir en termes de lutte contre le fascisme ou de lutte contre le nazisme. Ils ont payé le prix fort, à savoir 27 millions de vies. Et comme le soulignait M. Bohr, ils étaient les premiers à libérer les camps et ils étaient les premiers à Berlin. Donc ils ont effectivement énormément de matériel en leur possession. Et que si le régime de Tel Aviv venait à essayer de pousser l'argumentaire dans ce sens-là et d'épouser cette notion selon laquelle les nazis, quelque part d'aujourd'hui, et on a entendu des termes juridiques qui ont quand même des connotations extrêmement marquées, telles que génocide, en ce qui concerne les agissements présumés des Russes dans l'Est de l'Ukraine, on commence à comprendre où cette petite musique nous emmène et dans quel sens il semblerait que les Israéliens semblent se positionner, parce que quand on commence à laisser entendre que les dirigeants, la direction russe se serait rendue coupable d'exactions qui relèvent quelque part de la jurisprudence Nuremberg, on peut penser que quelque part l'objectif c'est d'accompagner cette idée de changement de régime et de juger ensuite, au lieu de l'histoire, en tout cas d'une certaine vision de l'histoire, l'action militaire russe actuelle. Donc tout ça, c'est un petit peu quelque chose qu'il faut lire entre les lignes, mais les signes ne trompent pas, la sémantique choisie ne trompe pas, et je pense que dans ce contexte-là, la diplomatie russe a été extrêmement ferme, elle a été très claire quant au danger que cette escalade sémantique et donc diplomatique peut générer si Tel Aviv continue dans cette direction. Maintenant, les faits sont ce qu'ils sont. Le principal financier du régime kiévien se trouve à vivre en Israël. Il a rapatrié tous ses milliards là-bas. On peut penser que le quiproquo concernant cette rapatriation et cet exil à Tel Aviv, c'est qu'il soit en mesure de continuer à financer effectivement les mercenaires qui s'y rendent. Et ce faisant, quelque part, ça laisse entendre que le régime sioniste a choisi son camp. On peut rajouter à ça que Washington, probablement, met la pression supplémentaire parce que c'est comme ça que Washington voit les choses. Et à partir de là, ça va être de plus en plus difficile pour le régime sioniste d'essayer de continuer à jouer ce jeu d'équilibriste sans qu'il ne s'y brûle les ailes, si je puis dire.
Monsieur Beur, je viens de le dire tout à l'heure, la Russie a annoncé que son armée avait simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave de Kaliningrad. Et cette annonce faite par l'armée russe intervient après, si vous voulez, ce rapport qui avait été diffusé par certains médias, y compris dont un américain, comme quoi en fait l'armée ukrainienne avait tué en fait des généraux russes grâce aux aides en matière de renseignement Washington, des États-Unis. Monsieur Beur, quel est d'après vous le message de ces exercices, si vous voulez, de ces tirs de missiles à capacité nucléaire de la part de la Russie, s'il vous plaît?
Alors, deux réponses. La première, la propagande de Kiev est coutumière de vivre dans un monde virtuel. Le métaverse n'existe pas encore, mais chez eux, il est bien présent hein, dans leur propagande à Kiev, puisque si on les écoute, il y a plus de tanks dans l'armée russe, tellement qu'ils en auraient détruit. Ça en devient ridicule. Donc ce qui vient de Kiev n'a pas tellement d'intérêt en réalité. Quand bien même, effectivement, certainement qu'il y a des pertes, si tant est qu'il y ait eu les pertes qu'il déclare, qu'il nous explique pourquoi à ce moment-là il recule partout. Les Russes doivent être certainement des super-hommes, certainement. Maintenant, cela étant dit, moi je ne reprends jamais ce que vient de Kiev, surtout venant d'un président qui était avant un clown. Aujourd'hui c'est un clown triste, c'est un clown criminel. Mais maintenant, pour revenir sur Kaliningrad, c'est en réponse à l'attitude de l'OTAN. Alors, il y a l'attitude officieuse qui est celle des généraux que nous voyons, pas qu'en France dans les médias, mais si on parle de la France, qui viennent, et dont certains officiers français, peut-être à la retraite, et qui disent qu'il faut frapper la Russie avec des frappes nucléaires préventives. Ces gens-là sont des fous. Et lorsque la Russie entend ça, la Russie, elle, ne prend jamais des déclarations à la légère. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait ce qu'il faut pour prévenir ces choses. Et elle a bien indiqué, surtout à la Pologne, qui est de plus en plus belliciste dans la région, que s'il voulait jouer à ce petit jeu, Kaliningrad est prêt à jouer son jeu dans le cadre d'une réponse symétrique, cette fois-ci, à une attaque qu'il voudrait faire, puisqu'on a entendu même des généraux polonais déclarer qu'il fallait envahir évidemment Kaliningrad et qu'il fallait même prendre la Biélorussie et tout l'Ouest ukrainien d'ailleurs pour faire une grande Pologne. Ceci étant dit, on n'est pas très loin de la réalité puisque vous allez voir, et certainement dans quelques semaines, il y a une forte possibilité que les Polonais puissent intervenir dans l'Ouest ukrainien officiellement pour protéger l'invasion russe, alors que les Russes ne s'intéressent absolument
pas à l'Ouest ukrainien, qui n'a d'ailleurs même jamais fait partie d'un point de vue historique de l'Empire russe. Donc, simplement pour, en fait, prendre un morceau, on va dire, de l'Ukraine. Donc, la réponse à Kaliningrad de l'état-major russe, c'est simplement de dire si on ne bluffe pas. La Russie, lorsqu'elle déclare des choses, elle ne bluffe pas. Ce qu'elle dit, elle va le faire. Donc, elle montre qu'elle peut faire, qu'elle peut réagir et qu'à ce petit jeu, l'OTAN ne va pas gagner. L'OTAN ne va pas gagner. À Kaliningrad, il y a les moyens de la politique jusqu'à la Pologne, jusqu'à la frontière allemande de l'offensive militaire russe, ils en ont envie. Ce n'est pas le cas et c'est pas l'objectif russe. L'objectif russe, ça ne concerne qu'une partie de l'Ukraine. Ça concerne l'OTAN qui doit s'arrêter. Et donc, c'est un message envoyé à l'OTAN, comme quoi, si vous voulez jouer, nous sommes prêts, nous avons les moyens qui sont déjà prédisposés, puisque beaucoup, et c'est ça qui est grave, c'est que beaucoup de ces généraux, alors ils sont à la retraite peut-être, mais ils ont une influence, et on s'imagine que certainement ceux qui suivent, comme toujours dans cette société occidentale, où ceux qui arrivent à la suite sont généralement d'un niveau inférieur, sont plus médiocres que leurs prédécesseurs, qu'ils aient la même pensée. Et pour éviter qu'ils aient la même pensée, il faut de temps en temps leur rappeler à la réalité, puisqu'ils en arrivent à croire à leur propre surpuissance. Je rappellerai, je terminerai là-dessus, quand on voit des experts sur les médias français qui ne savent pas placer Donetsk, qui ne savent pas placer le Donbass, qui confondent même certains la mer Noire avec la Caspienne, c'est affolant du niveau que peut avoir ces gens-là qui sont qui décident certainement des décisions au niveau de l'état-major français. Donc, de temps en temps, une petite piqûre de rappel, les piqûres, ils aiment bien ça en ce moment en Europe de l'Ouest, donc une petite piqûre de rappel fera du bien, et celle-ci, ces missiles à capacité nucléaire, effectivement, sont une piqûre de rappel, puisque je rappellerai que les missiles en question dont on parle à Kaliningrad peuvent avoir une charge classique, comme peuvent porter une charge nucléaire. C'est-à-dire que si un missile est tiré, ils ne savent pas ce qu'ils vont se recevoir sur la figure. En cela, déjà cela est une dissuasion, et espérons que ce sera compris par les docteurs Follamour de l'OTAN, et j'espère des Européens, parce que les Américains, une guerre en Europe, ça les arrange, mais les Européens, c'est suicidaire.
Monsieur Maître de Velay, la France va porter son aide globale à l'Ukraine à 2 milliards de dollars contre 1,7 milliard jusqu'à présent, soit 300 millions de dollars supplémentaires. A annoncé Emmanuel Macron, président français, dès jeudi 5 mai 2012, dans une vidéo diffusée lors de la conférence internationale donateur de ce nouvel apport ne concerne pas le volet militaire, a précisé en fait l'Élysée. Comment expliquez-vous cette prise de position de Paris dans ce contexte marqué, on vient de le dire, par, si vous voulez, cette passe d'armes entre le régime israélien et, si vous voulez, la Russie, entre le camp occidental et la Russie, qui est maître de volée?
Ben écoutez, la première chose qu'on peut se poser comme question, c'est pour un pays dont François Fillon disait dès 2008 qu'il était à la tête d'un État en faillite, on a du mal à comprendre comment le gouvernement français actuel peut générer des centaines de millions jusqu'à, effectivement, comme vous soulignez, 2 milliards d'euros en assistance à un pays qui non seulement ne fait pas partie de l'Union européenne, mais ne fait pas partie de l'OTAN. Donc il n'y a absolument aucune obligation légale de se faire. Nous rappellerons que le contexte initial était pourtant très très simple. Il s'agissait de mettre en œuvre les accords de Minsk. Emmanuel Macron porte donc une responsabilité écrasante puisqu'il est quand même aux affaires depuis 2017. Et que dans ce contexte-là, il était, au nom de la France, garant de ces accords avec Mme Merkel. Et qu'il aurait dû, avec elle, mettre la pression sur le clown triste Zelensky pour que celui-ci remplisse ses promesses de campagne. Je rappellerai à nos auditeurs qu'il avait fait campagne sur une réconciliation, sur le droit des populations russophones d'Ukraine de pratiquer leur langue et de pouvoir vivre en toute égalité de droits avec leurs concitoyens ukrainiens de l'Ouest, et que rien de cela n'a été mis en place à partir du moment où il a été élu, encore une fois, avec le financement de Igor Komolovski, qui, je le rappelle encore une fois, a établi maintenant son quartier général à Tel Aviv. Donc, dans ce contexte-là, on peut effectivement se poser des questions sur cet alignement, ce suivisme, d'autant plus que Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sont censés avoir eu une conversation téléphonique qui a duré 2 heures, et que si on veut vraiment rechercher une solution à cette situation, la première chose à faire, c'est d'arrêter, encore une fois, de fournir le régime kievien en armement. Et lorsqu'on entend effectivement, une aide alimentaire, une aide humanitaire, on sait très bien que sous couvert humanitaire, il est très facile de faire passer tout un tas d'équipements militaires. Et d'ailleurs, la France a annoncé, même quasi officiellement, qu'elle envoyait ses canons César, qui sont quand même des systèmes relativement sophistiqués. Donc, ce faisant, mettant de l'huile sur le feu, c'est difficile d'imaginer, à la lumière de ces événements objectifs, comment la politique et donc la conduite du gouvernement français dans cette affaire soit de nature à mettre, si je puis dire, une forme de restreinte et appeler une solution diplomatique de la crise actuelle.
Monsieur Beur, est-ce que vous aussi vous êtes d'accord avec Maître de Volley qui dit que voilà, la solution à envisager pour mettre un terme à cette guerre, c'est de cesser d'alimenter en armement, si vous voulez, Kiev?
Oui, l'OTAN sait très bien qu'elle a perdu la guerre. C'est une évidence. Pour tout expert militaire rationnel, ils savent très bien que la Russie l'a déjà gagné. Je rappellerai que la Russie engage maximum 10% de ses capacités en Ukraine. Parce que lorsqu'on dit que l'armée russe n'a pas les capacités, non, elle dose son intervention par rapport à cela. Je rappellerai que l'aide humanitaire, on la retrouve en vente en Ukraine, c'est-à-dire qu'elle est détournée. L'aide humanitaire, c'est de la corruption. L'Ukraine est l'État le plus corrompu du monde, selon les organisations occidentales en charge de faire un rating de la chose. Donc déjà, la seule chose qui compte en Ukraine, le seul mot qui compte en Ukraine, et je connais bien l'Ukraine pour avoir même fait, avant le Maïdan, j'ai été observateur électoral à Kiev pour les dernières élections, j'ai compris à ce moment-là que la seule chose qui comptait, c'était combien. Quelle que soit, c'était l'opposition ou pas l'opposition, c'est une question qui est d'ordre général en Ukraine. Donc maintenant, la Russie a été très claire. Oui, si on veut trouver une solution à ce conflit, c'est simple, n'intervenez pas dans une affaire qui concerne Kiev et Moscou. Point. S'ils n'interviennent pas, à ce moment-là, il n'y a pas de soutien militaire. La Russie obtient ce qu'elle veut plus rapidement. Et il y a à ce moment-là une situation où la guerre s'arrête et un nouvel ordre politique se met en place. Mais c'est cela que ne veut pas l'OTAN. Parce que l'OTAN, ça voudrait dire qu'elle démontrerait sa faiblesse, qu'elle démontrerait que finalement elle ne protège pas, tellement qu'elle a dit qu'elle allait protéger l'Ukraine. Elle s'est prise à son propre piège, avancé par les Américains d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, ils sont dans une situation, ils n'arrivent pas à se retirer. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Européens, je conclue dessus, je vous rassure, les Européens n'arrivent pas à faire marche arrière alors qu'ils ont fait une erreur. Ils devraient reconnaître leur erreur et laisser se terminer ce qui arrivera de toute façon d'une manière ou d'une autre. Et leur intervention militaire aujourd'hui en Ukraine est responsable des morts aujourd'hui supplémentaires. Et ce sont eux qui devront aller au tribunal et répondre des crimes que vont répondre les militaires et les politiques de la junte de Kiev qui passeront devant le tribunal, un tribunal spécial qui a été créé d'ailleurs par les Russes et d'autres pays pour pointer les responsabilités et ne pas laisser les crimes de génocide sans qu'ils soient traînés en justice.
Merci infiniment, M. Fabrice Beur, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Moscou. Mes vifs remerciements vont également à vous, Maître Arnaud de Volley, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir.
la poésie persane avant et après la révolution islamique. Deuxième partie. Il y a près d'un siècle, suite au mouvement de modernisation en Iran, les relations commerciales et culturelles avec les pays de l'Ouest se développèrent et la société iranienne subit quelques changements. La poésie elle-même ne resta pas figée, puisqu'elle évolua en s'évidant des concepts stéréotypés pour devenir le miroir de la vie réelle. Les précurseurs de l'évolution de la poésie en Iran ne pouvaient qu'appartenir au cercle des militants politiques de l'époque. Ils se maîtrisaient au moins une langue étrangère, telle que le français, le russe ou le grec. La dernière fois, nous avons un peu parlé de ces poètes militants, dont est surtout Nima Yushich, le père incontesté de la poésie moderne persane. À la fin des années 20, deux événements dont les effets se manifestèrent 10 ans plus tard marquèrent le milieu poétique. D'une part, de jeunes poètes adeptes de Nima Yushich rompirent avec la métrique traditionnelle et s'attelèrent à la poésie poétique. Le plus impliqué de tous fut Ahmad Shamlou, qui exerçait à la fois les métiers de journaliste et de traducteur. D'autre part, Hushang Irani revint de France avec un bagage de poèmes surréalistes publiés plus tard dans la revue Le Coq de Combat. Étudiant en France et connaissant de très près le dadaïsme et le surréalisme, il s'insurgea contre le symbolisme de Nima et le romantisme des néo-traditionalistes et écrivit des articles dans lesquels il les qualifiait de réactionnaires. Il prôna le principe de l'écriture automatique mais se définissait comme profondément non-conformiste, affranchi de tout engagement poétique et de toute revendication sociale, affranchi de tout présupposé. Sa poésie fut qualifiée de « cri violet », expression empruntée à l'un de ses poèmes. Chargé de critiques en provenance du camp des traditionalistes et des modernes, Nimaïens néo-traditionalistes, dès son apparition au début des années 50, le cri violet ne fit pas long feu. En 1953, le gouvernement national du docteur Mossadegh fut renversé en moins de 4 heures par un putsch, malgré la forte présence du parti du peuple, Toudé. Atterré par l'événement, la caste des intellectuels prit conscience de la difficulté d'actualiser la poésie politique comme elle l'envisageait. Le coup d'État les sortit d'un profond sommeil. Par ailleurs, la poésie persane subissait l'influence des auteurs étrangers, en particulier français. Mais un sentiment d'échec suffisait pour que les choses redeviennent ce qu'elles étaient. Les années 50 se traduisirent par le fiasco, la désorientation, l'insoumission, les balivernes, le libertinage, le sexe, la drogue, et le désespoir, annonçant les prémices d'une révolution farouchement percevable. À cette époque, la poésie s'épura et devint tout à fait persane. La poésie nimaïenne s'assigna alors une place de choix. Son regard critique était Mehdi Ahavan Sales, figure de proue du milieu littéraire. Incollable en littérature de l'Antiquité, et membre du parti Toudé. Il jonglait avec la poésie néo-traditionnaliste et nimaïenne. Ses critiques d'une grande justesse redonnèrent des ailes à la poésie de Nima, tombée dans un oubli qui avait duré 30 ans. Les années 50 seront dominées par la poésie néo-traditionnaliste peignant le paysage culturel iranien et par la redécouverte de la poésie nimaïenne dont le succès ne dura pas longtemps, puisqu'à la fin de cette décennie, la modernisation et l'occidentalisation bénéficièrent d'un essor prodigieux. En 1962, la vague d'occidentalisation déferla sur tout le pays, divisant les poètes en deux groupes, les engagés et les non-engagés. Le premier qualifiait le modernisme du chat plutôt de paramodernisme purement démagogique. La poésie était pour eux l'arme absolue contre le régime au pouvoir. Le second, indépendant vis-à-vis du régime, prenait une poésie radicalement moderne, épurée de tout engagement, mélancolie, symbolisme, plainte poétique et amoureuse. Les poètes engagés, porte-étendard de la poésie politique de Nima, réintégrèrent à partir de la seconde moitié des années 60 les mêmes symboles que avaient desservi jadis la créativité de la poésie nimaïenne et obtinrent un gain de lucidité qui conféra à leurs écrits l'apparence d'un parchemin politique. Les non-engagés étaient plus jeunes et optèrent pour un mode d'expression plus réaliste, proche du cri violet. Paradoxalement, ces poètes surréalistes, au lieu d'excéder leurs détracteurs, attirèrent l'attention de toutes les revues. Ahmad Reza Ahmadi apparut sur la scène en tant que précurseur de cette récente poésie surréaliste dite « la nouvelle vague ». Il était influencé par Hushank Irani et les recueils traduits de poèmes européens. La seconde moitié des années 60 fut marquée par la querelle des engagés et des non-engagés. Il ne restait dans les mémoires qu'un souvenir dérisoire de la poésie modérée et sentimentale des néo-traditionalistes. La poésie classique fut jetée aux oubliettes et la poésie nimaïenne, minée par les mêmes symboles, perdit de sa profondeur. Les grands poètes reconnus de l'époque, à savoir Chamblou, Akhavan et Sohrab Sepehri, écrirent de moins en moins. La nouvelle vague connut une importante évolution et d'une manière générale, c'est la poésie moderne dans son ensemble qui gagna du terrain et continua à survivre malgré sa relative profondeur de sens. Dans les années 70, le régime du Shah se radicalise. Les revues et les associations de l'opposition sont fermées, une forte censure est imposée, certains ouvrages sont saisis sous prétexte de contenir des mots tels que « rose »,« forêt » et « fil barbelé ». Les poèmes publiés en 1971, 1973 et 1974 se chiffrent respectivement à près de 70, 10 et 12, accusant une baisse considérable. Durant ces années-là, Ahmad Chamblou, Akhavan Salis et Sohrab Sepehri n'écrivent pas même un seul poème. La censure et la répression étouffent et déstabilisent aussi bien le poète révolutionnaire que le mystique ou le désespéré. Aucune figure de proue n'émerge dans le domaine de la poésie moderne. Les vers murmurés à cette époque sont anciens ou bien rédigés par Ahmad Chamblou, dont l'activité d'écriture a diminué. Et c'est dans cette atmosphère de répression du monde de la poésie que la révolution s'annonça. Aucun des genres poétiques figés, nimaïennes, nouvelles vagues, néo-traditionalistes, ne parviennent à soutenir et suivre l'élan de la révolution. Le poète de la nouvelle vague garde le silence et la poésie politique n'a rien de nouveau à dire. La poésie de Nima, dont l'importance résidait dans son apport symbolique, indice de l'érudition du poète, apparaissait fastidieuse et sans profondeur. Dénudé de sa dimension symbolique, il ne représentait plus rien, sinon un texte rythmé. Les néo-traditionalistes se faisaient rares depuis une décennie déjà et faisaient rarement l'objet de débats. La révolution prenait une langue nue, sans frioriture, pour exprimer la situation de l'époque, ce que les formes précédentes étaient incapables de proposer. Mais dans cet intervalle, les traditionalistes, marginalisés depuis la révolution constitutionnelle, s'assignèrent un nouvel objectif. Ils s'évertuèrent à utiliser la poésie comme outil en vue d'instaurer leur ordre. À peine assouvis, ils se rendirent compte de l'incompatibilité entre la réalité des faits et la forme poétique projetée, car chaque système d'idées engendre son propre ordre esthétique. Dans l'ordre esthétique traditionnaliste, l'art authentique est l'art traditionnel, et la poésie classique est par nature éloignée de la vie réelle. Elle ne trouve pas sa source d'inspiration dans la vie réelle, mais dans les livres anciens. Son essence, sa persistance et sa sainteté émanent de ces mêmes caractéristiques.
Thank you.